Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc cette semaine dans nos lectures en liberté et je vous propose un roman de Jean Giono, Regain. Quand le courrier de Banon passe à Vachères, c'est toujours dans les midis. On a beau partir plus tard de Manosque, les jours où les pratiques font passer l'heure, quand on arrive à Vachères, c'est toujours midi. Réglé comme une horloge. Le clocher de Vachères est tout bleu. On l'a badigeonné de couleurs depuis la sacristie jusqu'au petit chapeau de fer. Ça, c'est une idée de ce monsieur du domaine de la Sylvabelle. Il n'a pas voulu en démordre, puisque je vous dis que je paie la couleur, moi, toute la couleur, et que je paie le peintre, moi, puisque je vous dis que vous ne payez rien et que je paie tout, moi. Alors on l'a laissé faire. Ça n'est pas si vilain, et puis ça se voit de loin. Ceux qui voyagent dans la voiture du courrier le regardent longtemps, ce clocher bleu. Tout en mâchant l'andouillette. Il le regarde longtemps parce que c'est le dernier clocher avant d'entrer dans le bois et que, vraiment, à partir d'ici, le pays change. Voilà, de Manosque à Vachères, c'est colline après colline. On monte d'un côté, on descend de l'autre. Mais chaque fois, on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Ainsi, peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage deux ou trois fois s'en aperçoivent, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de champs de légumes. Puis parce que le blé est de plus en plus court. Puis parce qu'on passe sous les premiers châtaigniers. Puis parce qu'on traverse à gué des torrents d'une eau couleur d'herbe et luisante comme de l'huile. Puis parce que, enfin, paraît la tige bleue du clocher de Vachères, et que ça, c'est la borne. On sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la dernière, et que d'un seul élan, elle va porter les chevaux, la patache et les gens au plein milieu du ciel avec et les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter. D'abord sous bois, puis à travers une terre malade de lèpre comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis on va être si haut qu'on recevra sur les épaules comme des coups d'ailes, en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue toute rabotée par la grande varlope de ce vent. On trottera un petit quart d'heure et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. Les chevaux ont l'habitude. Il y a d'abord un beau détour comme un coude de bras, les clochettes des deux colliers, les graves pour le cheval roux, les clairs pour le cheval blanc, sonnent. Tantôt les unes, tantôt les autres, dans l'effort des garrots, à toi, à moi, à toi, à moi. Puis l'ornière oblique toute seule vers un bosquet de châtaigniers et les chevaux s'arrêtent, sans commandement. Michel saute du siège, ouvre la portière et invite à descendre. « Psieu dame, pour soulager les chevaux !» Aujourd'hui, il y a comme ça la demoiselle Delphine du bureau de tabac. La grosse Laure Duvernay qui va à la ferme des Gloria aider à tuer le cochon et l'oncle Joseph. En sautant sur la route, ils disent « Monstre, tu nous fais sortir avec un temps comme ça !» Le vent de novembre écrase les feuilles de chêne avec des galopades de troupeaux. Il est tout bien froid jusqu'au fond, d'un beau froid dur. Il a fait taire d'un seul coup toutes les sources. Il n'y a plus que son bruit dans les bois.
« Oh, pour un peu de vent qui passe !»
L'oncle Joseph, c'est le plus vieux.
« L'oncle, dit Michel, ça va vous faire du bien d'un peu marcher !»
C'est l'oncle d'Agatange, le cafetier du cercle à Bannon. On a l'habitude de le rencontrer dans le café près du poêle, ou près de la partie de Manille, et c'est comme ça l'oncle de tout le monde.
« Oh, moi, le bien !»
Mais enfin, pourtant, ça va la santé?
Oh, je me plaindrais, j'aurais tort.
Ah, vous avez bien fait de venir chez le neveu. C'était plus une vie que vous faisiez là-bas, à Aubignane.
Bah, c'était plus guère rentable. On n'était plus que 5. Puis, le Felipe a eu sa place de facteur au Revest. Alors, c'est venu de moi-même, j'ai dit...
Ben, qu'est-ce que tu plantes ici, d'un jour à l'autre, ça va tout te dégringoler sur la tête en galère.
Et c'est à ce moment-là que je l'ai fait dire au neveu, je lui ai tout donné. Moi, un peu de soupe, un peu de tabac, j'ai fait mon train.
Et les autres? Ils y sont encore là-bas?
Je l'ai su par un des hautes terres. Ils sont encore 3. Il y a Gobert.
Tu sais, le guigne-queue. Le père du Gobert qui est garde aux Rouvières.
Il est encore plus vieux que moi.
Il y a Panturle.
Oh, celui-là.
Et puis, il y en a une qu'on y dit la Piémontaise.
3.
Le vent soulève le ciel comme une mer. Il le fait bouillonner et noircir. Il le fait écumer comme les montagnes. Il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus ces plaques étales d'azur paisible, il n'y a plus que la course des nuages. Ils descendent vers le sud. À des moments, ce vent plonge et écrase le bois, s'élance sur la route en tordant de longues tresses de poussière. Les chevaux s'arrêtent, baissent la tête. Le vent passe. Quand le souffle lui est revenu,
« Cette piémontaise, dit la grosse laure, c'est pas une femme qui a les cheveux rouges.
Elle a toujours un de ses fichus.
Elle va aussi aider pour les cochons. Je l'ai rencontrée aux cerisettes l'an passé.
Toi, tu connais toujours, dit l'oncle, et au fond, tu ne connais rien, non. Elle n'a pas les cheveux rouges. Elle ne sort guère d'Aubignane. C'est une vieille cavale toute noire. La Zia Mamèche, c'est son nom. Cette femme, ça fait au moins 40 ans qu'elle est là-bas. Je me souviens, moi, de quand elle est arrivée. Elle ne savait pas un mot de français. Elle se mettait sous un talus et elle chantait. Puis, son homme est mort. Puis, son petit est mort.
C'est même quelque chose de curieux, ça. Le vent hurle derrière les nuages.
Son homme, c'était un puisatier. Il avait pris l'entreprise du communal.
Ce que c'est que le destin.
On faisait un puits, nous, à Aubignane. Lui, il était de l'autre côté des Alpes, peut-être bien tranquille.
Nous, avec notre puits, on arrive à un endroit difficile, tout en sable qui coule, et notre maçon, qui était des corbières, nous dit « Oh, je descends plus là-dedans, j'ai pas envie d'y rester !»
Lui, le piémontais, c'est juste à ce moment-là qu'il arrive à Aubignane, avec guère de sous et une femme qui allait faire le petit. Ce qu'il avait tiré de là-bas ici allait chercher le destin.
« Moi, je descends !» qu'il dit.
Il a creusé au moins 4 mètres. Il remontait tous les soirs, blanc, gluant, comme un ver, avec du sable plein de poils. Et un soir, vers les 6 heures, on a entendu tout à coup, en bas, comme une noix qu'on écrase. Une noix qu'on écrase entre les dents. On a entendu couler du sable et tomber des pierres. Il n'a pas crié, il n'est plus remonté. On n'a jamais pu l'avoir. Quand au milieu de la nuit, on a descendu une lanterne au bout d'une corde pour voir, on a vu monter l'eau au-dessus de l'écroulement. Elle montait vite. On était obligé de hausser la corde à mesure. Il y avait au moins 10 mètres d'eau au-dessus de lui. « Alors ?» fait Michel, qui s'arrête tout pétrifié au milieu de la route. Puis il commence à marcher parce que sa voiture et les autres avancent. Le plus, continue l'oncle Joseph, c'est que ce n'est pas tout là. Elle était marquée, cette femme. Son homme meurt, comme je vous dis, et nous, à la commune, on s'arrange pour lui donner du secours et on laisse le puits. On ne voulait pas boire de cette eau. Elle eut son petit peut-être 2 mois après. On disait, avec ce qu'elle a passé, il naîtra mort. Non, son petit était beau. Alors elle a un peu repris de la vie. Elle faisait des paniers, elle allait au ruisseau, elle coupait l'osier et elle tressait la corbeille. Elle portait le jeune homme dans un sac. Et pendant qu'elle travaillait, elle le posait dans l'herbe et elle chantait. Il restait tranquille. C'est arrivé combien de fois elle lui donnait des fleurs pour l'amuser. C'est de ça qu'elle aurait dû se méfier. Il avait 3 ans. Il courait seul. Cette fois, c'est l'oncle qui s'arrête au milieu de la route. Vous savez que ce n'est pas commode de parler en montant la côte. Je souffle, je me fais vieux. Il repart doucement. Il continue. Alors une fois, c'était à l'époque des olives, on a entendu dans le bas du vallon comme une voix du temps des loups. Et ça nous a tous séchés de peur sur nos échelles. C'était en bas, près du ruisseau. On est descendu à travers les vergers, tous muets à ne pas savoir. Nos femmes étaient restées toutes serrées en tas. Et ça hurlait toujours en bas, à déchirer le tendre du ventre. C'était comme une bête. Elle était couchée sur son petit comme une bête. On a cru qu'elle était devenue folle. L'Onésime met sa main sur elle pour la lever de là-dessus et elle se retourne et à pleine bouche, elle lui mord la main. À la fin, on a pu l'emporter, son petit était dans l'herbe, tout noir déjà et tout froid, l'œil gros comme un poing et dans la bouche une bave épaisse comme du miel. Il était mort depuis longtemps. On a su parce qu'il en avait encore des brins dans sa petite main qu'il avait mangé de la ciguë. Il en avait trouvé une touffe encore toute verte, il s'en était amusé pas très loin de sa mère qui chantait. Pauvre Dieu, Jeanne, mademoiselle Delphine. Mademoiselle Delphine a de gros mollets qui débordent en bourrelet la tige des bottines. Quand elle monte le marchepied, elle sait que Michel les regarde. Elle s'arrête, une jambe en l'air, et elle demande « Alors, l'oncle, c'est là-bas, au Bignan, là, où ça a l'air tout mort ?»
Il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour au roman de Jean Giono, Regain. Aubignan est collé contre le tranchant du plateau comme un petit nid de guêpes. Et c'est vrai, c'est là qu'ils ne sont plus que trois. Sous le village, la pente coule sans herbe. Presque en bas, il y a un peu de terre molle et le poil raide d'une pauvre oseraie. Dessous, c'est un vallon étroit et un peu d'eau. C'est donc des maisons qu'on a bâties là, juste au bord, comme en équilibre. Puis, au moment où ça a commencé à glisser sur la pente, on a planté au milieu du village le pieu du clocher. Et c'est resté tout accroché. Pas tout. Il y a une maison qui s'est comme décollée, qui a coulé du haut en bas toute seule, qui est venue s'arrêter les quatre fers d'aplomb au bord du ruisseau, à la fourche du ruisseau, et de ce qu'ils appelaient la route, là, contre un cyprès. C'est la maison de Panturle. Le Panturle est un homme énorme. On dirait un morceau de bois qui marche. Au gros de l'été, quand il se fait un couvre-nuque avec des feuilles de figuier, qu'il a les mains pleines d'herbe et qu'il se dresse les bras écartés pour regarder la terre, c'est un arbre. Sa chemise pend en lambeaux comme une écorce. Il a une grande lèvre épaisse et difforme comme un poivron rouge. Il envoie la main lentement sur toutes les choses qu'il veut prendre. Généralement, ça ne bouge pas ou ça ne bouge plus. C'est du fruit, de l'herbe ou de la bête morte. Il a le temps. Et quand il tient bien. De la bête vivante, quand il en rencontre, il la regarde sans bouger. C'est un renard, c'est un lièvre, c'est un gros serpent des pierrailles. Il ne bouge pas. Il a le temps. Il sait qu'il y a quelque part dans un buisson un lacet de fil de fer qui serre les coups au passage. Il a un défaut, si on peut dire. Il parle seul. Ça lui est venu aussitôt après la mort de la mère. Un homme si gros que ça, ça avait une mère comme une sauterelle. Elle est morte du mal, on appelle ça le mal. Mais c'est une vapeur. Ça prend les gens d'âge. Ils ont les trois sueurs, le point de côté, puis ça s'arrache tout là-dedans et ils meurent. C'est le sang qui se caille comme du lait. Quand elle a été morte, il l'a prise sur son dos et il l'a portée au ruisseau. Il y a là un pré d'herbe, le seul de tout le pays, un petit pré naturel, et il a quitté sa mère sur l'herbe. Il lui a enlevé sa robe et ses jupes et ses fichus parce qu'elle était morte habillée. Il n'avait pas osé la toucher pendant qu'elle souffrait et qu'elle criait. Comme ça, il l'a mise nue. Elle était jaune, comme de la vieille chandelle, jaune et sale. C'est pour ça. Il avait porté un morceau de velours et la moitié d'une pièce de savon, et il a lavé sa mère de la tête aux pieds partout, en faisant bien le tour des os, parce qu'elle était maigre. Puis il l'a mise dans un drap et il est allé l'enterrer. C'est du soir même qu'il s'est mis à parler seul. Des fois, il monte au village, voir Gobert ou la Zia Mamèche. Gobert, c'est un petit homme tout en moustache. Du temps où il y avait ici de la vie, je veux dire quand le village était habité à plein, du temps des forêts, du temps des olivets, du temps de la terre, il était charron. Il faisait les charrettes, il cerclait les roues, il ferrait les mulets. Il avait alors de la belle moustache en poils noirs. Il avait aussi des muscles précis et durs comme du bambou et trop forts pour son petit corps et qui le lançaient à travers la forge de ci de là, toujours en mouvement à saut de rat. C'est pour cela qu'on lui avait mis le nom de guigne-queue, ce petit oiseau que les buissons se jettent comme une balle sans arrêt pendant trois saisons de l'an. Maintenant, Gobert, c'est un petit homme tout en moustache. Les muscles l'ont mangé. Ils n'ont laissé que les os, la peau de tambour. Mais il a trop travaillé. Et plus avec son cœur qu'avec ses bras, ça fait maintenant comme une folie. Sa forge est au sommet du village. C'est une forge froide et morte. La cheminée s'est battue avec le vent et il y a des débris de plâtre et de briques dans le foyer. Les rats ont mangé le cuir du soufflet. C'est là qu'il habite, lui, Gobert. Il a fait son lit à côté du fer qui restait à forger et qu'il n'a pas forgé. C'est allongé, glacé dans l'ombre, sous la poussière. Et il s'allonge à côté, le soir. Sur le parquet de terre battue, l'humide a fait gonfler les apostumes gras. Mais il y a encore l'enclume. Et autour d'elle, comme un cale, la place nette, tannée par les pieds du forgeron. L'enclume est toute luisante, toute vivante, claire, prête à chanter. Contre elle, il y a aussi un marteau pour frapper dedans. Le bois du manche, lui, du même bon air que l'enclume, tout le jour. Quand il s'ennuie, Gobert vient, met les deux mains au marteau, le lève et tape sur l'enclume. Comme ça, pour rien, pour le bruit, pour entendre le bruit, parce que dans chaque coup, il y a sa vie à lui. Ce bruit d'enclume, ça va dans la campagne, et parfois ça rencontre Penturle qui chasse. C'est encore une chose à quoi on peut parler, ça. Ce matin, c'est le grand gel et le silence. C'est le silence, mais le vent n'est pas bien mort. Il ondule encore un peu. Il bat encore un peu de la queue contre le ciel dur. Il n'y a pas encore de soleil. Le ciel est vide. Le ciel est tout gelé comme un linge étendu. Il y a du feu chez Penturle. Il se lève au blanc de l'aube. Il est là, debout, devant l'âtre, à regarder les flammes bourrues qui galopent sur place à travers des ramées d'oliviers sèches. Il prend le chaudron aux pommes de terre, de l'eau, et des pommes de terre, c'est tout à la fois la soupe, le fricot et le pain. Le feu d'olivier, c'est bon parce que ça prend vite, mais c'est tout juste comme un poulain, ça danse en beauté sans penser au travail. Comme la flamme indocile se cabre contre le chaudron, Penturle la mate en tapant sur les braises avec le plat de sa main dur comme de la vieille couenne. La main en l'air pour un dernier coup, il dit à son feu : « Ah, tu as fini ?» Il a fini. Il en a assez d'être battu. Il frotte son long poil roux contre le cul du chaudron. Le vent d'un coup ronfle plus fort que le feu, et le soleil se lève. Du village descend un long sifflement de berger. C'est dirigé comme une flèche sur la maison de Panturle, ce sifflement. Ça sent, ça traverse juste les murs, ça vient teinter sur le chaudron au feu. Panturle quitte la branche avec laquelle il tournait la soupe. Il met sous sa langue ses deux gros doigts et il répond à rougir comme une pomme d'amour, d'un même sifflement qui monte. C'est Luce. Il sait que Gobert s'est avancé jusqu'à la placette de l'église et qu'il lui a, comme ça, souhaité le bonjour à sa manière, avec sa vieille langue et ses vieux doigts. Seulement, ce matin, c'est plus tôt que d'habitude, et ça a l'air de vouloir dire « viens ». Ça ne doit pas être pour du mal, je ne crois pas. Ça a l'air d'être encore un sifflet bien sain. Puis, ça n'a pas dit pressé « viens vite, viens vite, viens vite ». Non, ça a dit « viens ». Tout simplement. Pas plus. Comme par exemple « viens, viens voir, tiens, viens voir un peu ». On va y aller. Avant, il donne la bique. Elle est libre et toute seule dans la grande écurie noire et elle saute tout de suite vers la porte ouverte. Il la regarde manger. Comme elle s'amuse du nez dans les branches, il lui touche la tête. « Allez, viens, on monte à Gobert. » Quand on touche ce bord d'aubignane qui pend au-dessus du vallon à main droite, c'est tout de suite la maison de la Mamèche. Ça n'est pas sa propriété, bien sûr, mais personne ne viendrait réclamer. Elle n'a eu qu'à choisir dans le tas une maison pas trop démolie, avec autant que possible un peu de toiture. Panturle a fait un petit détour pour venir pousser la porte. « Tiens, Mamèche, voilà Caroline, prends le lait. » Comme la chèvre sur le seuil tremble de la voix et du poil, la piémontaise l'appelle « Cabro, cabro !» La chèvre répond et elle entre. Devant la forge, Gobert attend. « Tu as mis ta belle veste ?» demande Panturle. « C'est vrai ?» Il a mis la belle veste et le beau chapeau et le beau pantalon de velours. « Je pars, » dit Gobert doucement. Une grosse malle à ferrure écrase l'herbe de la rue. « Je pars. » L'enfant me l'a fait dire hier sur le soir par le berger des Pamponnais. Il dit qu'il a peur de cet hiver pour moi tout seul. Il dit que je serai mieux là-bas. Il dit qu'on m'a fait la chambre à côté de la cuisine pour la chaleur du poêle. Il dit que la Béline et les deux petits, ça me fera un peu de plaisir, que la Béline me soignera bien. J'ai 80 ans. Panturle regarde le Gobert tout bien astiqué et la malle parée. Et dans le milieu noir de la forge, un gros paquet tout cornu avec un drap noué. L'enfant m'a fait dire qu'il viendra avec le cheval jusqu'à la fond de Rennes-Porque. Après, il ne peut plus, il paraît que notre chemin s'est tout écrasé au fond du ravin. « Moi, je passe à pied, » dit Panturle, « c'est tout juste. » Alors, je t'ai sifflé pour ça. Il montre ses paquets. « La grosse boîte, c'est pas la peine d'essayer, ça ne passera pas. Tu y tiens ?»« Non. Des choses du temps de la femme. Et ça, là-bas ?» « Ah, mon pauvre, viens voir !» Dans la forge, le père Gobert dénoue le paquet. Ses mains tremblent. Là, couché dans le drap, son enclume. « Ça, je voudrais le sortir pourtant. » Panturle le comprend. « C'est des choses qu'on comprend, ça. » « On va essayer, le Joseph t'attend quand ?»« Il m'a fait dire qu'il partirait de la maison au soleil pointé.
T'es tout prêt ?
Ouais.
Tu languissais ?
Panturle a dit « Tu languissais », sans faire le mauvais au hasard du parler, sans méchanceté pour Gobert. Et Gobert, muet, baisse la tête.
Nous avons terminé donc pour ce soir cette première lecture de Regain de Jean Giono que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.